Libre débat. Reportage plateau radio ou son glané sur les ondes des radios libres pour faire écho aux luttes en tout genre. Histoire, féminisme, frontières, autodéfense numérique, Marseille en lutte, archives LGBTQIA+. Tous les mercredis de 16h30 à 18h sur Radio Galère 88.4. Bonjour, bienvenue dans Libre Débat. Ça fait un bout qu'on n'a pas rediffusé les précieuses chroniques amères du réseau Alarme Faune. Alors, ce mercredi, je vous propose d'en écouter deux. D'abord l'épisode 23, qui parle de la situation en mer Égée pour les personnes qui traversent depuis les côtes turques vers les îles grecques. Et puis, après une pause musicale, vous entendrez l'épisode 24 où on sera embarqué sur le Nadir avec Christine qui raconte un peu au fil, au jour le jour, comment ça se passe sur un bateau d'assistance et de secours. Bonne écoute.
Alarm phone, hello.
Hello, my friend.
This is what's the name?
Alarm phone.
Hello, my friend. This is alarm phone.
How are you, my friend?
I hear you.
Can you hear me?
Hello, my friend.
Okay, can you give me your GPS position?
Can you give me your GPS position?
Chronique amère.
Chronique.
Chronique amère.
Chronique amère.
Une chronique mensuelle réalisée par des membres du réseau Alarm phone.
Freedom, I don't meet them. Where's your freedom?
Are you at sea?
Okay, I call you back.
What kind of boat
what
are you on?
What do you see around you?
Can you give me your GPS position?
How many are you
position?
On the boat?
I hear you.
Can you hear me?
As you can, and stay strong.
Okay. Okay, I call you back.
I will call
Let's
you back.
Let's try calling again, because right now I can't hear anything.
La Méditerranée est devenue un cimetière.
Stay there, you're safe.
Parce que des milliers de gens traversent la Méditerranée.
Parce que la mer Méditerranée est une frontière.
Parce que les frontières perpétuent le racisme et le colonialisme.
Parce que le racisme et le colonialisme tuent.
Parce qu'en 2021, 1977 personnes sont mortes en traversant.
165 personnes par mois.
41 personnes par
semaine. Près de 6 personnes par jour.
Et bien bien plus dont on ne sait rien.
Rien qu'une fois, faire les vagues et tout casser rien qu'une fois.
Parce que des histoires existent derrière les chiffres.
Parce que ces histoires doivent être racontées.
Parce qu'on veut continuer à lutter.
Parce qu'on ne veut pas oublier.
Parce qu'on ne veut pas s'habituer.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 23e épisode de Chronique amère. Une chronique mensuelle où on décortique les politiques des frontières européennes et leurs conséquences depuis Alarm Phone. Alarm Phone, c'est entre autres choses des équipes qui diffusent un numéro de téléphone dans de nombreux lieux de départ des traversées des frontières maritimes de l'Europe. Alarm Phone, c'est entre autres choses des équipes qui se relaient jour et nuit pour répondre au téléphone. L'une des régions de traversée des frontières européennes depuis laquelle nous recevons des appels de détresse est la région de la mer Égée. En 2018, lorsque certaines membres de Chronique Amère commencent à faire des permanences téléphoniques, la situation à cette frontière est bien différente de la situation actuelle. Les personnes qui traversent subissent déjà des violences et des violations des droits humains. Mais en mer, les gardes-côtes semblent respecter les règles du jeu, celles du droit maritime international. Lorsque des bateaux franchissent la frontière maritime entre la Turquie et la Grèce, les gardes-côtes les secourent et les débarquent en Grèce. Et puis en mars 2020, tout bascule. Les embarcations qui tentent à traverser sont systématiquement attaquées, les moteurs volés, les personnes violentées et repoussées vers la Turquie. Et même lorsque les voyageurs et les voyageuses arrivent par elles-mêmes sur une île grecque, les gardes-côtes les remettent à l'eau sur des radeaux de survie gonflables et les laissent à la dérive. Depuis les permanences, on assiste à ces pushbacks sans fin, avec impuissance. On ne sait plus trop quoi faire pour soutenir les personnes qui traversent, à part documenter et relayer les violences. En 2023, tout change à nouveau. Il y a toujours des pushbacks, mais ils ne sont plus systématiques. Les personnes ayant atteint une île sont plus souvent assistées que refoulées. Certains bateaux sont secourus. D'autres bateaux sont même attaqués dans un premier temps, puis secourus dans un second. Aujourd'hui dans Chronique amère, on voudrait vous raconter ce qui se passe dans cette région de la mer Égée, plus particulièrement sur la route des côtes turques vers les îles grecques. On sait que les routes pour traverser les frontières de l'Europe évoluent constamment, en fonction des situations géopolitiques et de tout un tas d'autres choses. Depuis notre travail à l'Armphone, on est bien placé pour observer ces changements. On partage nos observations, on en discute, on réfléchit collectivement à comment adapter nos actions. Mais pour tout vous dire, ça fait plusieurs mois qu'on ne comprend plus grand-chose à ce qui se passe dans la région de la mer Égée. On est assez perdu et on ne saisit pas bien les enjeux de cette région. Alors, on a eu envie de faire cet épisode pour essayer de comprendre ensemble et de nourrir nos luttes contre le système des frontières. Attention, parce que la situation est dure et violente en mer Égée, comme dans le reste de la Méditerranée et de l'Atlantique, cette chronique et les cas qui sont racontés peuvent être difficiles à entendre.
بیاشیانه گشتم خانه به خانه گشتم بی تو همیشه باغم شانه به شانه گشتم عشق یگانه
The route traveling from Turkey to the Aegean island is a very specific one compared to other routes in the Mediterranean.
La route entre la Turquie et les îles de la mer Égée est très spécifique par rapport aux autres routes en Méditerranée, car la distance entre la rive turque et les îles grecques est assez courte, environ 10 km en général, ce qui signifie que les voyageuses n'ont pas besoin d'être préparées à un long voyage.
Même si on ne parle que d'une dizaine de kilomètres à traverser, c'est souvent périlleux, le climat est compliqué, les intempéries sont fréquentes. Donc malheureusement, beaucoup de gens périssent sur le chemin. Et je crois que si on regarde le nombre de personnes disparues sur cette frontière l'année dernière, il y en a plus de 700. Donc ça reste une zone très très dangereuse pour les traverser. Les gens arrivent sur des canots gonflables en caoutchouc, où en principe des dizaines, entre 30 et 70 personnes sont entassées. Souvent, les gens n'ont pas de gilet de sauvetage. En parallèle à ça, c'est une zone frontalière qui est devenue extrêmement contrôlée et surveillée, avec un investissement de financement de l'Union européenne, principalement dans les patrouilles des gardes-côtes, les bateaux, les radars. Frontex, dans la mer Égée, il s'occupe des opérations de surveillance des frontières. Et je crois qu'actuellement, il y a plus de 500 agents de Frontex qui travaillent en Grèce. Puis ils ont une dizaine de bateaux, des avions et aussi des véhicules de patrouille et de transport. Tout ça pour dire que les gardes-côtes grecs et Frontex travaillent main dans la main. Donc c'est devenu de plus en plus compliqué pour les gens de réussir à traverser cette frontière. Au-delà de la traversée en elle-même, je dirais que cette route elle est particulièrement périlleuse et dangereuse du fait des pushbacks et du fait que les pushbacks soient devenus un peu la normalité.
Quand on parle de pushback, on fait référence à la pratique qui consiste à expulser des personnes en mouvement du territoire d'un pays, sans qu'elle ait les possibilités d'y demander l'asile. Cela s'est produit sur terre et en mer, et pas seulement en Grèce. Ce qu'on observe à Lesbos, ce sont généralement deux types de pushback. Si les personnes sont trouvées dans les eaux grecques, ils sont arrêtés et parfois emmenés à bord des navires de garde-côtes grecques, pour être ensuite abandonné dans des eaux turques, soit sur le propre navire, soit sur un canot de sauvetage. S'il s'agit de leur propre bateau, le moteur est généralement enlevé, de sorte que dans les deux cas, les personnes sont laissées à la dérive. Une autre option consiste à les laisser sur leur propre bateau et les remorquer dans les eaux turques. L'autre scénario concerne les personnes sont déjà arrivées sur l'île, qui sont capturées par les hommes masqués, un groupe clairement lié aux gardes-côtes grecs. Souvent, ils sont forcés de monter dans des camionnettes banalisées emmenés dans des endroits isolés comme des entrepôts de vide ou directement sur la plage. Là, un rip des gardes-côtes grecs les attend pour les amener à un plus gros navire, puis les abandonner dans les eaux turques. Il faut préciser que les termes pushback ne rendent absolument pas compte de la violence exercée au cours du refoulement. Les personnes parlent de harcèlement sexuel, de vol, de fouilles à nu, de coups, de morsures de champ, d'exposition à une chaleur ou un froid extrême. Parfois, des personnes sont même jetées directement dans la mer. Les personnes sont maltraitées, leur vie est mise en danger et beaucoup ont été tués. Les survivants sont renvoyés dans un pays qui n'est pas sûr et ils peuvent ou non essayer à nouveau de traverser.
After in 2020 the change of government and the outbreak of a very visible drift to the right also of public opinion.
Au moment du changement de gouvernement en 2020, ça a été très clairement le début du virage à droite de l'opinion publique. Les attaques de migrants et migrantes et de groupes de solidarité ont commencé à avoir lieu ouvertement sur les îles. Suite à ça, il y a eu une très longue période pendant laquelle presque tous les bateaux qui voyageaient dans la région de la mer Égée ont été repoussés. Les gens ont quand même essayé et certains ont réussi, mais pendant longtemps, la route était vraiment très difficile, avec de nombreuses violations des droits humains et beaucoup de tentatives de traversée qui n'ont pas abouti.
The outcome of the practice of pushbacks does not so much depend on how many pushbacks are actually happening in this very moment.
Les conséquences de la pratique des pushbacks ne dépendent pas tant du nombre de refoulements qui ont lieu, mais plutôt de la peur qu'ils font naître chez les personnes en mouvement. Cela pousse les gens à arriver dans des zones extrêmement éloignées et très dangereuses, et à prendre la route par mauvais temps. Cela conduit évidemment à des naufrages et à des gens qui se cachent dans les bois, dans des conditions météo très difficiles.
When we talk about the development in the Aegean in 2020,
quand on parle des changements en mer Égée en 2020, on a l'impression parfois que c'est une période où les pushbacks ont commencé à se produire, ce qui n'est pas du tout le cas, car il y en avait déjà les années précédentes. Ce qui est nouveau en 2020, c'est qu'ils deviennent systématiques, que ça devient quasiment l'unique réalité, et aussi qu'ils se passent non seulement sur mer, mais également à terre.
Par ailleurs, en plus des pushbacks, l'autre risque pour ceux qui réussissent à accoster et à ne pas être refoulés, c'est la criminalisation, puisque les autorités grecques continuent d'arrêter immédiatement et un peu au hasard des personnes qu'ils décident avoir été les capitaines ou les conducteurs des bateaux de fortune.
The Alarm Phone had in the last year, in 2023, more than 600 cases in the region of Greece.
L'année dernière, en 2023, Alarm Phone a enregistré plus de 600 cas dans la région de la Grèce, dont plus de 400 entre la côte turque et les îles de la mer Égée. Sur ces 400 cas, 260 des bateaux avec lesquels nous avons été en contact sont arrivés sur une île grecque sans être refoulés, ce qui représente par rapport aux trois années précédentes un nombre très élevé d'arrivées et qui montre que la situation a de nouveau changé.
Political changes. One of the reasons is definitely that the Greek Coast Guard and the Greek government has been.
Il y a toujours de nombreuses raisons au changement politique. L'une des raisons, c'est qu'au cours de toutes ces années, les gardes-côtes grecs et le gouvernement grec ont été fortement critiqués et publiquement blâmés pour les pushbacks et les violations des droits humains par différents acteurs. Et c'est même devenu beaucoup plus visible après le naufrage de Pylos l'année dernière.
Au large de la Grèce, un bateau de pêche parti de Libye a coulé alors qu'il faisait route vers l'Italie. 79 cadavres ont été repêchés. C'est la pire tragédie migratoire depuis 2016.
Le nombre de passagers qui se trouvaient à bord du bateau est encore incertain. Selon des témoins, il pourrait atteindre 750.
En Grèce, 4 jours après le naufrage d'un bateau de migrants, les chances de retrouver des survivants sont désormais quasi nulles.
Le bilan est de 78 morts, au moins une centaine de rescapés dans la ville portuaire de Kalamata.
The shipwreck of Pylos in June 2023 was one of the most massive situations with loss of lives we have been confronted with in the Mediterranean.
Le naufrage de Pylos en juin 2023 a été l'une des situations les plus graves en termes de perte de vie humaine auxquelles nous ayons été confrontés en Méditerranée et dans le cadre du travail que nous effectuons avec Alarm Fund. Dans les temps qui ont suivi, on a assisté à de nombreuses luttes en Grèce. Beaucoup de gens sont descendus dans la rue. Ils ont dénoncé ce qui se passait et ils ont surtout dénoncé le rôle que les gardes-côtes grecs ont joué dans cet incident. En effet, les gardes-côtes grecs étaient présents au moment où le bateau a coulé. Ils ont manifestement essayé de remorquer le bateau, ce qui a rendu le bateau tellement instable qu'il a coulé. De nombreux témoignages de survivants indiquent que le rôle des gardes-côtes grecs n'a pas été de sauver des vies, mais de mettre des gens en danger dans une situation de toute façon très périlleuse.
After Pylos, Frontex got nervous, that's for sure.
Après Pylos, Frontex est devenu nerveux, c'est clair. Ils ont réalisé que les autorités grecques ne se soucient pas trop de leur propre réputation et qu'ils n'ont pas à le faire. Mais que Frontex, en tant qu'entité européenne, doit être plus prudente. Du point de vue de garde-côte grecque, Frontex est donc un très bon partenaire dans les crimes, en termes de dons d'argent et de biens, mais ce n'est pas le meilleur partenaire lorsqu'il agit de confidentialité. En gros, Frontex est utilisé pour détecter les bateaux et le sale boulot est fait par les gardes-côtes et par les propres personnes de confiance.
En parallèle de ça, il est important de rappeler qu'il y a 9 personnes égyptiennes qui sont en ce moment en prison et qui sont accusées d'avoir soi-disant causé ce naufrage, malgré le fait qu'elles sont survivantes de ce même naufrage. Et on appelle à ce que la Grèce et à ce que les autorités grecques, au lieu d'essayer de montrer patte blanche dans une opération de communication pour faire croire que les violations des droits de l'homme ne se passent plus, qu'ils enquêtent sur leur responsabilité, qui a été déjà largement prouvée dans les médias, et qu'ils déterminent les responsabilités de leurs propres gardes-côtes dans cette tragédie. C'est ça qu'on demande, en fait.
What is really clear is that pushbacks from land have happened very, very little in the last month, and that is related to.
Ce qui est très clair, c'est que les pushbacks à partir de la terre ferme ont été très, très rares au cours de ces derniers mois. Et cela est lié au naufrage de Pylos, mais aussi à d'autres raisons, comme par exemple, sur certaines îles grecques, des ONG qui soutiennent les arrivées et apportent une aide médicale de première réponse. Depuis que sur ces deux îles, des organisations comme MSF opèrent à nouveau et sont les premières à arriver lors du débarquement, ça change la situation. Moins de pushback depuis la terre, car il y a des témoins civils.
Récit d'une nuit de permanence.
Le 22 septembre, nous sommes trois de Marseille en permanence de nuit. Quand nous prenons le relais, il y a 7 cas d'ouvert. Ça veut dire qu'il y a eu l'alerte pour 7 bateaux en mer dans différentes régions. Et ouvert, parce que nous sommes toujours en contact avec ces bateaux, ou que nous ne savons pas si ces bateaux sont arrivés à destination, s'ils ont été interceptés, etc. Dans la nuit, nous aurons de nombreux autres appels pour d'autres bateaux qui ont quitté la Turquie en direction des îles grecques.
Appel 1784. 1854. Nous recevons une alerte d'un nouveau bateau. Les personnes sur le bateau expliquent que leur moteur leur a été enlevé et jeté à l'eau par des hommes masqués. Leur position est dans les eaux turques. nous n'arriverons plus à joindre le groupe de personnes. Les autorités turques nous confirment à 3h13 avoir secouru le bateau. Dans un article publié sur le site officiel des gardes-côtes turcs, il est clairement dit que le bateau gonflable a été refoulé par des navires grecs vers les eaux turques avant d'être secouru.
AP 1785. À 3h17, nous entrons en contact avec un bateau de 45 personnes, 10 femmes, 15 hommes et 20 enfants, qui sont dans les eaux grecques en direction de Lesvos. Leur position GPS envoyée par WhatsApp est claire là-dessus. Yel nous demande de l'aide. Yel nous dit que les gardes-côtes grecs les ont attrapés et les frappent. Nous décidons d'envoyer immédiatement un mail aux autorités pour montrer que nous sommes au courant de leur agissement et dans l'espoir d'arrêter les violences et d'empêcher un refoulement. Après l'envoi du mail, nous appelons les gardes-côtes grecs. Une discussion absurde a lieu, où l'officier fait semblant de chercher des informations sur ce bateau, nous dit qu'il y a eu un secours à cet endroit-là, effectivement. Il me sermonne de façon paternaliste suite à une erreur du nombre de personnes que nous avons faites en écrivant le mail, me disant que ce sont des mathématiques de base, que ce n'est pas notre travail d'embrouiller les autorités. Le ton monte, j'en peux plus de cette hypocrisie. Je leur rappelle que leur travail, c'est de secourir les personnes en mer et que moi, je ne devrais pas devoir faire le relais des urgences en mer s'il faisait bien son boulot. À 5h48 du matin, nous avons un message des personnes sur le bateau. Yel sont arrivées en Grèce après avoir été battues. Yel nous enverront une vidéo d'elles sur le bateau avec un bateau des gardes-côtes grecs autour d'elles.
AP 1786, 3h55. Nous recevons une alerte concernant un bateau avec 18 personnes, dont 4 femmes, 6 enfants et une personne âgée. Yel parle farsi, mais aussi un peu turc. Yel nous envoie leur position GPS. Yel sont dans les eaux turques. À 4h08, Yel nous informe que la police grecque a cassé leur moteur. Nous leur expliquons qu'étant dans les eaux turques, ce sont les gardes-côtes turcs qui peuvent les récupérer. Une femme, au bout du fil, refuse de me croire. Elle me crie que c'est impossible, que ce sont les Grecs qui leur ont cassé le moteur, que ça veut bien dire qu'elles sont dans les eaux grecques. Malheureusement, comment expliquer que les gardes-côtes grecs font n'importe quoi et se permettent d'entrer jusque dans les eaux turques pour attaquer les bateaux, pour les empêcher d'atteindre la Grèce ou pour ne pas avoir à les secourir? La femme sur le bateau veut que j'informe les autorités grecques. Je l'informe que les autorités grecques vont ensuite prévenir les Turcs. Elle me dit de faire ce que je dois faire, que la situation est trop dangereuse. Pleine d'un sentiment de colère et d'impuissance, nous envoyons un mail aux autorités grecques. À 4h54, les personnes sur le bateau nous disent qu'elles acceptent que nous alertions les autorités turques. Nous appelons les Turcs qui nous disent qu'ils partent chercher le bateau en détresse. Plus tard, l'équipe de suivi entrera en contact avec des personnes du bateau qui témoigneront.
Nous étions arrivés près des côtes grecques quand la police grecque nous a pris notre moteur, nous a menacés avec des armes avant d'attacher une corde à notre bateau pour nous ramener dans les eaux turques. Nous avons attendu 3 heures en mer, sans moteur, terrifiés. Puis nous avons été récupérés par les gardes-côtes turcs. Tout ce que nous voulons, c'est arriver dans un pays où nous puissions être en sécurité.
AP 1787, 5h10, nous recevons une alerte d'un bateau dont le moteur a été détruit par les gardes-côtes grecs. Quand nous entrons en contact avec les personnes sur le bateau, elles nous disent qu'elles viennent d'arriver sur l'île de Kos, qu'elles devront être transférées dans un camp et qu'elles sont saines et sauves.
AP 1788, 5h15. Nous recevons une alerte concernant un bateau de 26 personnes, dont le moteur a été détruit par les gardes-côtes grecs. Quand nous établissons le contact avec les personnes sur le bateau, elles nous disent qu'elles sont toujours en mer, mais que les gardes-côtes turcs viennent d'arriver pour les ramener en Turquie.
AP 1789. À 5h20, nous recevons une alerte d'un groupe de 12 personnes, dont des femmes et des enfants, qui sont arrivées sur l'île grecque de Samos. Nous informons les autorités. Nous n'aurons plus de nouvelles des personnes qui ne répondent plus à nos messages. Nous pensons qu'elles sont arrivées dans le camp de l'île.
AP 1790, 6h05, nouvel appel. Deux personnes sont arrivées sur l'île de Rhodos. Elles sont dans la rue, elles ont froid et peur. Nous informons les autorités et elles seront amenées au commissariat de l'île quelques heures plus tard.
AP 1791, à 6h50 du matin, nous ouvrons un nouveau cas. 19 personnes sont sur un bateau au nord-est de Lesvos. Elles sont dans les eaux turques, nous informons les autorités turques qui iront les récupérer.
Il est 7h du matin. Nous faisons le relais avec la prochaine équipe de permanence et essayons de reprendre un peu d'énergie.
À l'heure actuelle, dans la région de la mer Égée, il y a environ 20 000 personnes qui sont détenues ou quasi détenues dans des camps, dans des conditions inhumaines. L'État grec, avec le soutien financier de l'Union européenne, a construit de grosses structures modernes pour, en gros, retenir les gens dans des camps. Donc voilà, les gens se retrouvent, les gens qui réussissent à atteindre les îles grecques sont toujours bloqués sur les îles depuis le deal entre la Turquie et l'Union européenne de 2016. Donc ce sont toujours des prisons à ciel ouvert.
Also in the last year we have been in contact several times with people that tried the crossing for the third time, the fifth time, the tenth time.
L'année dernière, nous avons été en contact à plusieurs reprises avec des personnes qui tentaient la traversée pour la troisième, cinquième ou dixième fois et qui souvent avaient également appelé à l'armphone plusieurs fois. C'est-à-dire qu'elles avaient essayé, qu'elles avaient été repoussées et qu'elles avaient réessayé et ces personnes finissaient à nouveau en Turquie. Là, elles étaient détenues pendant quelques jours ou quelques semaines, puis elles étaient libérées, généralement sans rien. Comme il n'y a aucune infrastructure, elles vivent dans la rue ou dans des camps provisoires, ou si elles ont de la chance, dans des sortes d'espaces auto-organisés. Elles essaient à nouveau et elles paient beaucoup d'argent pour remonter sur un bateau et refaire une tentative. Ça peut durer des années pour les personnes qui essaient en boucle.
The role of Turkey is like other states that have borders with the EU.
Le rôle de la Turquie est le même que celui d'autres États qui ont des frontières communes avec l'Union européenne et des accords avec l'Union européenne. En fait, ces États reçoivent de l'argent de l'UE pour financer leurs gardes-côtes et protéger leurs frontières extérieures. La Turquie a commencé à jouer le rôle des gentils de l'histoire. Ils secourent les personnes refoulées, publient des informations sur les pushbacks et puis accusent l'UE de violation des droits humains. C'est intéressant comme évolution, car aujourd'hui, ils se comportent avec Alarmphone comme des collègues. Ils sont très coopératifs, ils donnent beaucoup d'informations. Ce qui, je pense, est utile d'une certaine manière pour nous en tant qu'Alarmphone. Mais d'un autre côté, nous devons aussi voir cela d'un œil critique, parce que leur comportement répond à un intérêt politique qui peut changer à tout moment. On ne peut pas savoir comment ils pourraient se comporter l'année prochaine, parce que tout ça, ça fait partie de calculs politiques.
Sometimes we are in contact with people for a while after they have arrived in Greece and to see that actually they succeeded to cross.
Parfois on reste en contact avec des personnes qui, longtemps après leur arrivée en Grèce, finissent par traverser pour aller quelque part où se trouvent leurs amis, leur famille ou un endroit où vivre. Ça montre que c'est encore possible pour les gens de voyager et que ce sera toujours le cas. Les gens essaieront toujours de trouver des routes pour aller là où ils et elles veulent aller. Et toutes ces politiques de militarisation et de violence aux frontières ne feront que rendre les choses plus dures et dangereuses pour les gens, mais elles essaieront toujours et elles réussiront aussi, du moins certains et certaines d'entre eux. Je pense que c'est bien de toujours se rappeler des moments de réussite dans notre travail et notre soutien aux personnes en mouvement.
Since 2018, when my younger brother was crossing the Aegean waters, after that, I used to get calls from friends and families on the move. They say that if the land was safe, a father would never put their child on the water.
Depuis 2018, lorsque mon petit frère a traversé les eaux de la mer Égée, je reçois des appels d'amis et de familles en déplacement. Et elles me disent que si la terre était sûre, un père ne mettrait jamais son enfant sur l'eau. Et je pense, en tant qu'Afghane, qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'aller sur l'eau avec leur enfant. Juste pour se mettre en sécurité ou demander l'asile et tenter de changer leur génération pour vivre dans un endroit meilleur et avoir au moins les droits humains minimum d'une personne vivant sur Terre.
Voilà. On remercie toutes les personnes qui nous ont éclairées et qui ont partagé leur analyse sur la situation en mer Égée. Merci à Azada,
qui depuis 2018 reçoit des appels de personnes qui traversent vers les îles grecques et les accompagne nuit et jour au téléphone. Merci à Marion et au Legal Center Lesbos qui fait un travail précieux d'accompagnement juridique des personnes à l'arrivée sur l'île grecque et qui lutte sans relâche pour dénoncer les violences à cette frontière. Merci à Flo et Marion d'Alarmphone qui font notamment un important travail de suivi des personnes après leur refoulement. On voulait terminer cet épisode avec des pensées de solidarité. Des pensées de solidarité pour les 9 de Pylos et les 2000 autres personnes actuellement en prison en Grèce, accusées d'avoir conduit les bateaux sur lesquels elles ont traversé. Des pensées de solidarité aux 30 survivantes du naufrage du 10 janvier au large de Lesbos et aux proches des deux personnes qui y ont perdu la vie. Merci à toutes celles qui ont rendu cette chronique possible. Merci à celles qui ont participé, ont fait des retours, ont diffusé. Vous pouvez réécouter cette chronique sur le site de Jet FM et sur celui de Canal Sud. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches et la diffuser à l'infini. Pour en savoir plus sur Alarmphone et les traversées des frontières maritimes de l'Europe, vous pouvez aussi consulter le site WatchMed ou celui d'Alarmphone. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Chronique Amère. Et d'ici là, main sur le cœur et poing levé.
Hola.
Salam alaikum.
Allô, bonjour.
Alarmphone,
c'est Alarmphone.
How are you, my friend?
Comment estás, amigo?
How many are you under?
Can you hear me?
Est-ce que vous m'entendez?
Okay, can you,
Benny,
can you give me your GPS position?
Chronique à mer.
Chronique à mer.
À mer.
La Méditerranée est devenue un cimetière.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 24e épisode de Chronique Amère, une chronique mensuelle où l'on parle de ce qui se passe aux frontières maritimes de l'Europe et toujours depuis Alarmphone. Pour cet épisode, on a l'occasion de plonger dans la carte, d'aller au-delà de nos claviers, écrans et téléphones et de nous rendre en Méditerranée centrale. Grâce à Christine et à son enregistreur, on vous propose d'embarquer sur le voilier Nadir
qui fait partie de la flottille de bateaux d'assistance et de secours de la société civile qui opère dans la région. Le travail qu'on fait dans Alarm Phone est très complémentaire de celui des bateaux de sauvetage et des avions civils, Seabird et Colibri. Un équipier de Nadir nous disait qu'Alarm Phone et les avions ont un rôle fondamental, car on relaie des positions qui permettent aux bateaux de trouver les embarcations en détresse. Sans ces informations, ils seraient bien moins efficaces. En discutant avec des membres de l'équipage, on s'est aussi rendu compte qu'il n'y a pas que notre action qui se relaie, il y a aussi le stress. Pendant une permanence d'Alarm Phone, quand on reçoit l'information qu'un navire de sauvetage a en visuel le bateau et les personnes en détresse, on est très soulagé. Pour nous, c'est la fin du travail, le moment où l'inquiétude et la tension redescendent, où on peut souffler, car on sait que les personnes vont être secourues. Mais pour le bateau de sauvetage et l'équipage, c'est en fait le moment où tout commence, où l'adrénaline et le stress bondissent d'un coup, parce qu'il va falloir parvenir à communiquer clairement avec les personnes à bord, éviter les mouvements de panique et peut-être évacuer des gens sans que personne ne tombe à l'eau. C'était en août dernier, une période très intense avec énormément de traversées depuis la Tunisie vers Lampedusa.
Tout l'équipage est arrivé hier, samedi. On a rencontré l'équipage qui partait. Ils étaient bien fatigués. Ils ont accompagné et mis en sécurité plus de 800 personnes en deux semaines sur zone. Et voilà, le premier jour, c'est un peu le moment de se rencontrer, de faire connaissance, de discuter de qui va s'installer dans quelle cabine et de déjà découvrir le bateau. Alors Nadir, c'est un voilier en métal qui fait 19 mètres de long. Donc c'est un voilier, c'est pas... idéal, c'est pas prévu pour faire du sauvetage en mer, mais bon, il a été acheté il y a 4 ans par l'ONG Rescue Ship et adapté, transformé pour pouvoir faire principalement de l'observation et, s'il le faut, du sauvetage.
Nadir, c'est 19 mètres de long.
4 voiles, 40 tonneaux.
Un moteur de 300 chevaux.
1000 litres de gazole consommés par rotation.
10 rotations par an.
1000 litres de réserve d'eau.
8000 euros par rotation.
2 réservoirs de 1000 litres de gazole.
7 membres d'équipage à bord.
5200 personnes assistées sur leur route vers l'Europe en 2023.
So, my name is Nico. It's this one. I have, for example, this one situation of having like an eye contact with like real.
Mon nom est Nico. Sympathy, like with j'ai cette fois cette situation où j'ai eu un contact, un regard, avec de la vraie sympathie, avec je sais pas un regard où il n'y avait pas le sentiment de hiérarchie.
Being together in a common struggle somehow.
Et c'est comme ce petit moment qui donne une sensation d'être ensemble. Dans une lutte commune contre les frontières et le racisme. Même si, bien sûr, c'est moi qui mets beaucoup d'interprétations dans ce moment.
Ciao, sono Giulia. Una delle cose che mi dà energia a fare quello che sto facendo è avere, diciamo, fare qualche cosa di pratico, di effettivo. Che secondo me è un po' una cura contro questo un po' un senso di rabbia.
Je suis Giulia. Une des choses qui me donne de l'énergie pour faire ce que je fais, c'est de faire quelque chose de concret. Ce qui est pour moi un remède contre le sentiment de colère et d'inutilité qu'on a quand on lit les nouvelles ou qu'on s'informe sur ce qui se passe aux frontières, sur les politiques racistes de l'Europe.
Sicuramente quello che facciamo è una piccola parte, ma sentire di essere come persone che si oppongono e
c'est sûr que ce qu'on fait c'est une toute petite partie, mais ça nous fait nous sentir comme des gens qui s'opposent, qui s'organisent de façon concrète pour une réponse de protestation et de rage.
To check the breathing, you want to free the thorax, so you will be cutting.
Jour 2, lundi 31 juillet.
Nous nous sommes réveillés de bonne heure. Nous avions un entraînement, révision des gestes de premier secours avec l'équipe de la médecin et du secouriste du bord.
Once you see there is no breathing, at this point you start the resuscitation.
La matinée a été consacrée en partie à finir les courses, notamment les stops d'eau, et aussi à récupérer une cinquantaine de gilets de sauvetage en plus. On a décidé d'embarquer 200 gilets de sauvetage. Vu les chiffres assez impressionnants des traversées, on préférait avoir trop de gilets que pas assez. Et là, cet après-midi, on a consacré l'après-midi à faire le premier briefing de sécurité et de découverte du bateau pour nos deux nouvelles équipières. Donc on s'est occupé de tester nos gilets de sauvetage, nos casques, de les adapter, de vérifier que les AIS sont les dispositifs de localisation si jamais quelqu'un tombe à l'eau, que tout fonctionne, que les gilets se déclenchent bien.
We said in our case you will do first the five rescue breathings. If you are alone because nobody has heard there is something happening, you don't waste time to go and look for something, so you start massaging.
Vendredi 4 août, sixième jour de rotation sur Nadir. On se met en route après avoir reçu de nombreux signalements de bateaux entre la Tunisie et Lampedusa. Ce sont des alertes qui viennent d'Alarm Phone, d'Open Arms ou entendues à la radio VHF. Au bout de plusieurs heures de navigation, on rencontre un premier bateau, en métal, avec une quarantaine de personnes à bord. On commence à distribuer des gilets de sauvetage à tout le monde. Mais tout à coup arrive un deuxième bateau. La nuit est tombée, cela complexifie les manœuvres. Les personnes sont davantage stressées. Puis, on aperçoit un troisième bateau dans la nuit. On continue à distribuer gilets de sauvetage, à évaluer la situation, à évacuer les urgences médicales sur Nadir. La situation est déjà bien tendue quand on découvre plus tard dans la nuit une quatrième embarcation en sale état. Sur un des bateaux, il y a deux femmes enceintes, dans un état très inquiétant. Toutes les deux sont à terme. On contacte les gardes-côtes à la radio, mais ils répondent qu'ils sont débordés, ils ne peuvent pas venir les évacuer. Comme le temps presse, on prend la décision d'embarquer toutes les personnes sur Nadir. Et ben nous, on s'est mis en route vers Lampedusa avec beaucoup de monde à bord. C'était impressionnant. Il y avait des gens partout. La plupart des rescapés étaient posés. Il y avait les couvertures de survie qui volaient un peu dans tous les sens, qu'il y avait un bruit de papier aluminium froissé dans le vent. Il faisait nuit encore, le jour allait pas tarder à se lever. Puis il y a eu un très joli lever de soleil. Et les personnes rescapées ont se réveillé petit à petit. Les personnes qui faisaient des prières. Un moment de calme un peu assez paisible. En arrivant à Lampedusa, quand on est entré dans le port, en fait on entrait dans le port donc à 9h30 du matin, et il y a des bateaux de touristes, beaucoup de bateaux de touristes qui sortaient pour leur excursion à la journée. Et là, c'était surréaliste ce télescopage d'univers. Le débarquement a été géré par les flics et Frontex. Et après nous avoir fait poireauter pendant 4h30 sous le cagnard, ils ont débarqué les gens de manière pas sympa en leur gueulant dessus. Puis il fallait se mettre en rang. Enfin, c'était vraiment pas cool, quoi. Comme on savait pas combien de personnes il y avait à bord, j'ai décidé de les compter. Et j'ai un peu halluciné. Ça fait 170 personnes qui étaient sur Nadir pendant quelques heures. C'est un... Nadir n'a jamais accueilli autant de personnes. C'est un record battu, là. Moi, c'était mon anniversaire hier. Alors, 170 Boza, c'est un beau cadeau d'anniversaire, je trouve.
Hi, my name is Yelka. The one thing that I always come back to are those, what I struggle with generally within this work is this reality check between doing the work and then coming back to land, going to restaurants, being the tourist, being white, being privileged.
Bonjour, je m'appelle Yelka. La chose à laquelle je reviens toujours, ce avec quoi je me bats généralement dans ce travail, c'est la confrontation de la réalité entre le travail et le retour sur Terre, le restaurant, le fait d'être blanche et privilégiée. Et j'ai traversé l'Atlantique il y a quelques mois et j'ai ressenti ce point de jonction. Lorsqu'on est en Méditerranée, on parle de ce gigantesque cimetière. Et dans l'Atlantique aussi, c'est un cimetière énorme, créé par les nations occidentales qui ont asservi des millions de personnes. Et cette relation entre le fait d'aimer être sur l'eau et de vivre une forme de liberté lorsqu'on navigue, et le fait de perdre parfois le contact avec la réalité pour soulager le stress, fait toujours ressortir en même temps ces souvenirs et ces pensées qui reviennent toujours sur ce que ce territoire signifie pour plein d'autres personnes.
A lot of time I was reflecting a lot about the difficulty in being having now a little role in this
souvent je réfléchis aux difficultés au fait d'avoir un petit rôle dans cette situation où c'est clair que les gens sont très en danger, mais de savoir aussi que quand les personnes arrivent en Europe, elles sont toujours en danger, elles sont loin d'être en sécurité en arrivant à terre, et de penser à tous les états racistes dans lesquels elles arrivent, les gens qu'elles vont rencontrer. Oui, c'est un moment difficile, qui ne s'arrête pas là, je dirais.
Yes, Osram, go ahead.
Yes, ma'am, I'd like to inform you of one small wooden boat with migrant on board. If you are ready, I can give you a position.
Mercredi 9 août, il est bientôt midi. J'ai pris mon car il y a une petite heure. La nuit était très calme et là, on se dirige... vers une position relayée par un pêcheur qui indiquait deux bateaux qui avançaient doucement. On n'a pas très bien saisi le nombre de personnes à bord, mais il est possible que ce soit à peu près 80 personnes. Et on va checker pour voir comment ça va pour eux. Là, on a en visuel un bateau. On s'approche pour avoir plus de précision.
I think it's good if you approach with the tender. Okay. Then we have two boats in the water. We have also the tender in the water. Just the reminder: if they start to jump, we go back.
Arnaud pour Christine de Nadir.
Oui, allô Nadir, allô, vous écoute.
Tout va bien pour vous?
Oui, jusqu'ici ça va.
Je vais me reposer un peu. Je donne la radio à mon amie Julia. C'est Julia qui va parler avec vous après.
Ok, je sais qu'elle parle français.
Elle parle français, oui.
Ok, merci.
À tout à l'heure.
Merci.
Here. You are Arnaud's contact person. Official. Bah, il est 19h, je viens de remonter à bord avec Yelka. On a trouvé deux bateaux qu'on a accompagnés pendant un moment jusqu'à ce que l'un d'eux tombe en panne de moteur. Donc on a fini par... on le remorque et l'autre bateau nous suit. On a passé 5 heures sur l'annexe à les accompagner, à les encourager, leur donner de l'eau. Super communication avec les gens à bord. Il y a un bateau qui nous suit, qui est autonome, à qui on a laissé une VHF. Et donc j'ai communiqué avec Arnaud qui a la VHF. Et le bateau qu'on remorque, ça va bien à bord aussi. Il y a, je ne sais plus exactement, 30 et 33 et 42 personnes. Deux bébés qui vont bien. C'est après la nuit très intense qu'on a eue l'autre jour, c'est beaucoup plus agréable et un peu réparateur, je pense, pour nous tous, de faire ce que Nadir fait habituellement, c'est-à-dire d'accompagner, de sécuriser. On a donné des gilets de sauvetage à tout le monde, de l'eau, des crackers au bateau qui n'avaient plus rien à manger. Et voilà, ça fait du bien. On a encore quelques heures de route jusqu'à Lampedusa. On devrait arriver à 3h30 du matin. Si les Coast Guard, les Charlie Papa ne viennent pas nous récupérer les gens entre-temps.
Question. Do you have any information about a Coast Guard vessel or a Guardia Financia vessel coming to help us with the two boats we are assisting?
Chiama Lampedusa Radio.
Sì, sì, va che di clandestini, sì.
Il faudra détacher la corde. Est-ce que vous pouvez détacher la corde à l'avant du bateau?
Nadir, Charlie Baba, stay to port.
Pour que les gardes-côtes puissent récupérer votre bateau. Possible de défaire le nœud devant?
Good evening, sir. Do you confirm two migrant boats close to your position?
Yes, that is correct.
We have to give space, right?
Yeah,
the
authority
is telling us
for
the
relay. Yes, yes, yes.
Okay, light is done. Okay. Christine, yeah. Tell them that we drive a bit away for the space. But yeah.
That what?
We drive a bit away so that the other vessel has space.
On s'écarte un peu pour les laisser travailler.
Et à demain.
Yes.
Vous avez été super. On
vous souhaite
bon courage pour la suite.
Bon
courage. Abbiamo liberato la cima e ci stiamo allontanando.
E laissez la petite lampe pour vous
apporter. Ok, grazie.
On verra la chercher après. Merci. Bye bye. Bon courage.
Hello, my name is Eunice. So on bigger ships, when we have guests or survivors on board, we try to do things together with them. Like on this one rotation.
Bonjour, mon nom est Eunice. Sur les grands navires, quand on a des invités, des survivants à bord, on essaie de faire des choses ensemble. Pendant une des rotations, par exemple, notre électricien a montré comment câbler des choses ensemble. Et il y avait une personne du Cameroun qui était pompier et qui a fait un atelier. Il y avait l'équipe qui proposait des choses, les invités, et c'était vraiment agréable d'être ensemble. C'est à un moment où nous avons passé 3 semaines à bord. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer le fait de passer quelques jours ensemble ou seulement quelques heures, ou d'être sur des petits bateaux ou des gros bateaux. Ça dépend vraiment de l'espace et de la façon dont les gens se sentent aussi. Depending on the space and how they are actually feeling, right? Yeah, so it's always really depends on the situation, the circumstances, but there is actually a lot of things that you can do. Donc oui, ça dépend de la situation, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble pour que ça ne devienne pas trop ennuyeux. Et ça, ça fait aussi partie de comment prendre soin des personnes secourues, en étant toujours juste et transparent.
What are you preparing?
Pancakes
for breakfast?
Ah, today we do pancakes for the best crew.
Wow, so great.
You always get what you deserve.
And what is your recipe? Can you share it, or is it secret?
Oh no, this is just flour, some baking powder, oat milk.
Ciao, sono Lucia. Un aneddoto, ovviamente, il primo che mi viene in mente è quello che riguarda una delle giornate, diciamo, centrali della, di queste due settimane in mare.
Bonjour, je suis Lucia. La première histoire qui me vient en tête, elle s'est passée à peu près au milieu de ces deux semaines en mer. Ce soir-là, on est très fatigué parce qu'on a assisté plusieurs bateaux les jours d'avant et donc tout le monde va se coucher, sauf moi et Yelka, car on est en charge du quart de nuit.
Siamo rimaste a fare il turno di notte, erano tra l'una e le due di notte, a un certo punto c'è stato questo momento in cui non capivamo se c'era c'erano dei rumori e così.
A un moment, vers une heure ou deux heures du matin, on commence à entendre des bruits. Au début, on ne comprend pas du tout ce que c'est. Et puis là, on entend « Salam alaikum » comme ça, en plein milieu de la mer. Alors, on se retourne et on se rend compte qu'un bateau s'est approché de nous. Un de ces bateaux en métal sur lesquels c'est très dangereux de voyager. Alors voilà, ce bateau est là et donc c'est reparti, tout recommence. On va réveiller les autres, certains sont en pyjama et voilà. Je peux dire qu'on n'a pas lâché avec ce bateau. Mais oui, c'était un moment un peu surréaliste, presque ironique, avec ce bonjour très sympathique.
On a un drapeau cuir sur Nadir en guise de pavillon national. Et il y avait plusieurs personnes cuir dans ce groupe du bateau qu'on a évacué. Et plusieurs personnes, quand ils ont vu ce drapeau, sont venues nous souhaiter Happy Pride ou nous dire « We are queer boys, rescued by a queer boat, that's so great !» Et voilà, ça a fait une connivence très, très agréable. Mercredi 11 août. On est arrivé vendredi soir avec 54 escapés à bord. Il y a eu un trop beau moment. Une fois que les gens étaient rassurés, on arrivait, il y avait Lampedusa en arrière-plan, le coucher de soleil, les dauphins, et puis un moment de joie et de danse et de chant sur le pont du bateau. C'était vraiment très beau. Là, je me suis permis de sortir le micro et d'enregistrer.
Voilà, Chronique amère, c'est fini pour aujourd'hui. On avait envie de terminer cet épisode par des pensées de solidarité. Des pensées de solidarité pour celles et ceux qui traversent et parviennent de l'autre côté, la plupart du temps de manière autonome, sans le soutien ni d'alarme-phone, ni des bateaux civils. Des pensées de solidarité pour celles et ceux qui tentent de traverser, mais sont interceptées et ramenées dans des pays de départ, où elles seront de nouveau enfermées ou déportées, dans le désert, et abandonnées là, sans rien. Des pensées pour nos camarades, à bord des bateaux et avions de la flotte civile, pour qui les opérations de secours sont parfois très difficiles. Des pensées de solidarité avec les équipages, sur qui les soi-disant gardes-côtes libyens n'hésitent pas à tirer, pour les empêcher de prendre des personnes à bord et de les emmener en Europe. Des pensées de solidarité pour les personnes qui cherchent sans relâche des nouvelles de leurs proches, disparus pendant la traversée. Merci à tous ceux qui ont rendu cette chronique possible. Merci à celles qui y ont participé, qui ont traduit, qui ont enregistré, qui ont fait des retours, qui ont monté, qui ont mixé. Merci à Christine, Julia, Lucia, Yelka, Younes, Nico et Johannes de nous avoir permis d'embarquer avec elles, d'avoir partagé avec nous stress et jolis moments, et de nous avoir permis de nous sentir un peu plus proches des personnes secourues, d'entendre comment ça se passe dans la carte. Vous pouvez réécouter cette chronique sur le site de Jet FM, Radio Duo, Radio Galère et Canal Sud. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches et la diffuser à l'infini. Pour en savoir plus sur Alarmphone et les traversées des frontières maritimes de l'Europe, vous pouvez consulter le site Watch the Med ou celui d'Alarmphone. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Chronique Amère. Et d'ici là, main sur le cœur et point levé.
تو نخسته ای نه هم
d'entendre l'épisode 23 et 24 de Chroniques amères de Réseau Alarmphone. Vous retrouverez les Chroniques amères le mois prochain dans Libre Débat. Restez sur Radio Galère car à 18h c'est l'émission Une heure en Palestine. Et à la semaine prochaine. Libre Débat. Reportage plateau radio ou son glané sur les ondes des radios libres pour faire écho aux luttes en tout genre. Histoire, féminisme, frontières, autodéfense numérique, Marseille en lutte, archives LGBTQIA+. Tous les mercredis de 16h30 à 18h sur Radio Galère 88.4.